Le Grand Hebdo, une émission présentée par Bérénice Deville et Paul Meyer sur Radio Territoria.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'Hebdo Territoria, nous sommes ravis de vous retrouver. L'Hebdo Territoria, c'est l'émission qui décrypte l'actualité économique, sociale, politique et environnementale des territoires. Nous sommes évidemment, comme chaque semaine, accompagnés d'invités, acteurs des territoires, et j'ai la chance de co-animer cette émission avec Paul Meyer. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Comment allez-vous ?
Très bien.
En forme ?
Ouais, très très bien.
Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un vaste thème qui est celui de la logistique. Alors quand on entend logistique, on pense tout de suite aux poids lourds qui roulent. On pense également à l'immobilier, hein, cette classe d'actifs qui multiplie les records, hein, avec une année exceptionnelle pour l'immobilier logistique en 2021. Mais la logistique, c'est bien plus que ça. C'est un ensemble de process dont nous allons justement discuter avec nos invités. Nous allons également parler de transport, de logistique urbaine. Pour ce faire, je suis accompagnée à ma droite de Juliette Berton. Bonjour.
Bonjour.
Directrice RSE et innovation chez Sogaris. À côté de vous, Razi Hamadi. Bonjour.
Bonjour.
Alors, directeur du MBA Management des transitions urbaines.
Tout à fait.
Et à notre gauche, Juliette Duzinski. Bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Avec plaisir. Chef du service développement de la voie d'eau de la direction territoriale bassin de la Seine des voies navigables de France.
C'est ça.
Eh bien, l'Hebdo Territoria spécial logistique, c'est maintenant.
Le Grand Hebdo sur Radio Territoria.
Alors, la logistique, on en parle de plus en plus, hein, c'est un marché très dynamique. 2 millions d'emplois, c'est 10% du PIB français, 78 millions de mètres carrés d'entrepôts et de plateformes. La logistique urbaine, alors c'est ce dont nous allons parler aussi, hein, c'est quelque chose de différent. Paul, la logistique urbaine, ça existe depuis un petit moment déjà.
Oui, absolument. Alors, c'est vrai que la logistique urbaine, c'est un terme qui peut sembler un petit peu effrayant, un petit peu technique. Finalement, la logistique urbaine, ça existe depuis toujours, en tout cas depuis aussi longtemps que des villes peuvent exister. Dès Babylone, il a fallu approvisionner en nourriture, en marchandises, en flux, finalement, l'ensemble des cités. Les cités ont toujours été construites autour de la distribution des flux, des échanges. Et les flux, les échanges, eh bien, c'est bien la logistique. Les premières traces de logistique urbaine en tant que telle, on les retrouve il y a effectivement très très longtemps. La première réglementation qui cadrait la logistique urbaine, pensez-vous, on la retrouve au deuxième siècle après Jésus-Christ, dans la Rome antique. J'étais encore assez jeune, je crois qu'on ne se connaissait même pas à l'époque. On la retrouve dans la Rome antique, où on a découvert le premier décret, le premier arrêté, qui interdisait aux attelages tirés par des animaux de circuler et de livrer des marchandises dans Rome autour du IIe siècle après Jésus-Christ. Donc ça ne date pas d'hier.
Eh bien justement, on va expliquer alors un petit peu ce que c'est que la logistique, hein, urbaine, puisque c'est différent. Nous, la logistique, on imagine des grands entrepôts, hein, on l'a dit tout à l'heure. Juliette Berton, alors déjà, vous allez nous présenter Sogaris, et après, on va faire justement un focus sur la logistique urbaine.
Avec plaisir. Donc Sogaris, c'est une entreprise assez particulière, assez atypique dans le paysage français et le paysage parisien. C'est une dame assez âgée, hein, qui a fêté ses 60 ans, voilà, qui a été créée à la fin des années 60. C'est une société d'économie mixte, donc qui associe des capitaux publics détenus par des collectivités locales, en l'occurrence la ville de Paris, les départements de la Petite Couronne, et un actionnaire privé qui est la Caisse des dépôts et consignations. Donc c'est une entreprise privée, mais dont l'ADN est vraiment profondément public et dont l'action est évidemment prioritairement tournée vers la chose publique et l'intérêt général. L'essence de Sogaris, hein, et ce qui a guidé notre activité depuis notre création, c'est la réorganisation d'une offre foncière et immobilière pour la logistique dans un premier temps du bassin parisien. Et puis, au fil de notre histoire, on a aussi eu des implantations sur d'autres territoires en région. Mais le cœur de notre développement, c'est bien celui du Grand Paris, hein, au regard notamment de nos actionnaires. Donc, Sogaris, c'est vraiment une entreprise, une foncière, hein, qui détient des actifs de logistique urbaine. Historiquement, une plateforme logistique à Rungis, qui n'est pas le marché de Rungis, je le précise. Voilà, une plateforme logistique dédiée. Puis, progressivement, d'autres implantations dans Paris. On a développé une très grande diversité d'immobilier, justement, de logistique urbaine. Comment, en fait, on déploie ce que nous, on appelle un maillage, c'est-à-dire une organisation de sites qui ont différentes échelles, différentes surfaces, qui accueillent différentes aussi typologies d'activités, mais tout au service des activités de distribution. Je pense que cette définition, notamment, de la logistique urbaine, si on devait le dire très simplement, c'est tout ce qui permet d'organiser dans l'ensemble de la chaîne logistique cette question de la distribution de la ville. Ce dernier segment, qui est le segment dernier kilomètre, mais aussi l'avant-dernier, ce segment qui est le plus coûteux pour les acteurs, mais qui est aussi le plus déterminant dans ses impacts écologiques et dans ses impacts urbains. Donc c'est vraiment ce qui motive notre action, comment on pérennise ce maillage, comment on le consolide au travers de nouveaux sites, et puis comment on le détient dans un temps très long, puisqu'on est un investisseur de long terme.
Alors le plus coûteux, justement, ce dernier kilomètre, ça représente combien en termes de pourcentage du coût du produit ?
Aujourd'hui, c'est très difficile à estimer puisque les acteurs ne sont pas complètement intransparents dans leurs coûts. Mais on sait, et puis ça dépend beaucoup des filières, parce que c'est vrai que la logistique, elle recouvre une diversité très large d'activités. Et elle est très dure, en fait, à appréhender, on va dire, d'un point de vue scientifique, puisque c'est à la fois l'activité de transporteur logisticien, c'est aussi l'activité de supply chain d'acteurs qui internalisent cette logistique. Je pense notamment aux acteurs de la grande distribution. Mm-hmm. C'est aussi une activité support de beaucoup d'autres fonctions, de fonctions de santé. Je pense qu'on l'a largement constaté pendant notamment la crise sanitaire et les périodes de confinement. Donc ça recouvre cette très grande hétérogénéité d'acteurs. Et évidemment, l'enjeu de l'avant-dernier et du dernier kilomètre pour ces différentes filières n'est pas le même. C'est une problématique pour tous, mais les impacts en termes de coûts et d'organisation et d'enjeux de stratégie d'implantation sur les territoires métropolitains vont largement différer.
Razi Amadi, je vous vois faire oui de la tête derrière, acquiescer. Vous êtes d'accord avec ce que dit Juliette Berton ? Alors vous êtes un expert aussi de la transition urbaine, mais pas que, ancien député. Alors juste, vous jouez, faire oui, est-ce que vous pouvez compléter
Pour moi, la logistique et la logistique urbaine en particulier, on fait l'objet d'une concentration pleine et entière de ma part depuis quelques années désormais, puisque à la base, j'ai travaillé dans les domaines du logement, de l'aménagement et notamment dans le domaine des infrastructures avec des fonds d'investissement avant d'être parlementaire.
Oui, vous êtes l'ancien vice-président justement de la commission
sur l'aménagement commercial. Et donc, il y a quelques années, lorsque j'ai voulu un petit peu compléter ce cursus, avant le lancement du troisième cycle de l'Institut Léonard de Vinci, j'ai choisi de rejoindre quelqu'un que j'entendais depuis un moment, qui est Laetitia Dablan, à qui on doit beaucoup, qui, au sein de l'université Gustave Eiffel, avec d'autres, anime aussi le troisième cycle et le master spécialisé Smart Mobility, dont une grande partie de logistique urbaine, que j'ai rejoint. Ils m'ont accepté et où j'ai pendant près de 2 ans suivi ce cursus. En parallèle, évidemment, New Stank Cities ou agence d'information, on parle beaucoup de logistique urbaine. Je rejoins évidemment tout ce qui a été dit, notamment à travers 3 mots qui sont essentiels. La dimension publique. Je crois qu'on ne pourra rien faire de durable ou d'efficace sans un vrai dialogue public-privé, de fait, parce que reste des investisseurs privés. On ne voit pas aujourd'hui la puissance publique économiser de l'argent dans l'investissement pour des services publics comme l'hôpital et l'éducation, qui semblent être les priorités du président de la République, pour investir dans l'immobilier tertiaire, par exemple. Donc, c'est public-privé. La seconde des choses qui me semble essentielle dans ce qui a été dit aussi, c'est un petit peu cette notion de planification. Et pour finir peut-être et ne pas monopoliser la parole dès ce premier tour, je ferai le lien avec un certain nombre de déclarations de Pierre Vels qu'on connaît bien, qu'on ne présente plus, récemment dans le domaine de les énergies renouvelables, où il disait qu'il se passe un petit peu n'importe quoi dans ce pays. C'est-à-dire qu'aux 4-5 coins du pays, il y a des gens qui décident de priver l'agriculture de foncier pour faire des panneaux solaires, pourquoi pas. Dans certains endroits, on va décider de faire de la rétention d'eau et d'avoir de la micro-hydroélectricité, pourquoi pas. Mais tout cela se fait d'une manière complètement non coordonnée, désorganisée, où c'est la course à celui qui se saisira le plus vite des opportunités restantes. Alors que le défi est national, que le réseau est national, eh bien pour la logistique urbaine, c'est un petit peu la même chose. Puisqu'on va le voir dans cette émission, je crois, la question énergétique, la question foncière, la régulation des flux, la réglementation, tout cela est lié et ne peut être livré à la loi de la jungle.
Oui, la logistique, c'est assez vaste. C'est aussi du transport. Et justement, c'est du transport routier, mais pas que, du transport fluvial aussi, qu'on peut parfois oublier ou mettre de côté. Juliette Duzinski, alors justement, je vais vous demander de présenter avant toute chose les voies navigables de France.
Voies navigables de France, on est un établissement public de l'État, gestionnaire de l'infrastructure fluviale. En France, on compte... c'est le pays européen qui compte la plus grande infrastructure fluviale, en fait. Souvent, on ne le sait pas, on méconnaît cette donnée, 8 700 km d'infrastructure fluviale, 6 500 gérés par Voies navigables de France, avec une organisation par grand bassin géographique. Donc, je représente le bassin de la Seine, qui est le plus important en termes de réseau, 1 400 km de rivières, de fleuves, de canaux. Le plus grand bassin en termes de trafic, tourisme fluvial, mais trafic marchandises, puisque c'est ce qui fait l'objet de l'émission. Mais Voies navigables de France, ce n'est pas que le transport. Alors, c'est le transport de marchandises, mais c'est aussi un acteur en aménagement du territoire et c'est la gestion des ressources en eau. Souvent, on a l'habitude de dire qu'on transporte d'abord de l'eau pour l'agriculture, de l'eau pour l'industrie, de l'eau pour alimenter... des centrales microélectriques, de l'eau pour les collectivités, pour l'eau potable. Un Français sur deux consomme de l'eau qu'on lui apporte, en fait, que VNF apporte. Voilà la diversité de nos missions. Et la fonction de transport, c'est une fonction importante qui donne du sens à la voie d'eau et qui vient avec des compléments que sont souvent le rail, la route ou les vélos cargo, qui sont beaucoup utilisés dans la logistique urbaine fluviale.
Parce que c'est vrai que la logistique, pendant longtemps, on le disait au début, ça a été vu comme un élément finalement de côté, alors qu'en réalité, dans une ville, dans la vie quotidienne des citoyens, eh bien, c'est un ensemble de services, de possibilités qui sont offertes aux habitants et qu'on voit rarement mises bout à bout, mais qui doivent être une chaîne faite de maillons cohérents pour arriver à apporter ces services et à faire fonctionner des territoires et des villes. Vous le décrivez bien et vous l'incarnez bien en étant en Voies navigables de France, puisqu'il y a ce réseau qui forcément est maillé et national sur lequel on s'appuie. Et dans ce que vous décriviez, Juliette, également tout à l'heure, on voit bien que sur les thématiques, on a déjà un gros sujet. C'est-à-dire qu'on doit mêler les mobilités, les transports, la question du développement économique et des espaces fonciers, donc du développement et de l'aménagement des villes, et puis la question environnementale, parce que on sait que les livraisons que l'ensemble des mobilités sont une des sources d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a aussi une solution lorsqu'on planifie, lorsqu'on élabore globale, qu'est la logistique urbaine qui doit être utilisée. Donc, je vais le dire simplement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut être un territoire et faire un plan climat-air-territoire sans y inclure une vision globale de logistique urbaine, pour répondre à ce que disait Razia Madi sur les panneaux solaires contre du foncier disponible pour organiser les mobilités?
Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, notre héritage, c'est que la logistique urbaine, c'est un impensé des politiques publiques, ou alors une pensée très partielle, à la fois parce qu'on a un enchevêtrement ou ce fameux millefeuille aussi d'échelons, on va dire, de collectivités et de gouvernance, qui fait qu'on a des compétences diverses et variées, à la fois sur l'urbanisme, sur les politiques de transport, sur le développement économique, sur l'environnement au sens large, qui sont pas gérées et pas forcément centralisées par les mêmes acteurs. Une diversité aussi d'outils de planification et d'acteurs qui les conçoivent et qui les animent. Et la logistique urbaine, c'est à la fois un impensé comme peuvent l'être, par exemple, les réseaux en ville. Ouais. La question des réseaux d'eau, des réseaux numériques, des réseaux énergétiques, qui sont finalement des conditions vitales de notre existence. On n'est pas conscientisé sur ces éléments-là, voire même on trouve assez pénible les travaux de réseau, alors que c'est quand même...
C'est très juste.
C'est la clé de notre existence. Et pour autant, la logistique, ce n'est pas qu'un réseau. C'est aussi, en effet, une activité, un service, de proximité qui a évolué, notamment très fortement sous l'effet du e-commerce, qui recompose considérablement, et je pense que c'est un euphémisme, la manière dont la logistique compose nos vies de particuliers, mais aussi nos vies de professionnels. Donc on voit que finalement l'enjeu, au-delà de la question, je dirais, d'un plan climat, c'est comment finalement on arrive à la réagencer à toutes les échelles, non pas comme une réponse palliative à des difficultés, à la congestion urbaine, à des nuisances, à des problèmes de pollution, à des problèmes aussi de forte précarité de l'emploi. On a évoqué le fait que c'était un gisement d'emploi.
C'est vrai, dans ces métiers.
Pour autant, c'est voilà, aujourd'hui un secteur à la fois qui est identifié comme important par les décideurs publics, mais aussi un secteur qui préoccupe et c'est largement médiatisé de par la très forte précarisation de certains types d'emplois, de certains domaines assez spécifiques. Donc on voit qu'il y a vraiment cet enjeu de repositionner la logistique urbaine comme une donnée d'entrée, pas comme une fonction servante, pas comme une réponse, mais bien comme une donnée qui finalement doit accompagner la transformation, l'évolution de nos villes, leur transition.
Et justement, j'aimerais qu'on parle de l'évolution de cette logistique. On l'a dit tout à l'heure, maintenant, la pollution, avant, la seule préoccupation du consommateur, c'était le coût, à moindre coût. Maintenant, il n'y a plus le coût, il y a les délais de livraison, quand ça va être livré, et il y a aussi, est-ce que l'empreinte carbone, est-ce que ça pollue, voilà, on s'y intéresse. Il y a tout ça qui se rajoute. Il y a aussi la logistique a évolué en termes d'industrie, c'est-à-dire que maintenant, dans les entrepôts, on fait aussi de l'assemblage, on reçoit les pièces qui viennent d'autres pays.
La logistrielle.
Exactement, la logistrielle, on parle de logistrielle, ça aussi, ça a évolué. On assemble vraiment juste avant le dernier kilomètre. Razi, on parle d'évolution de logistique. Il y a aussi une évolution depuis les années 90-2000, quand la logistique a vu le jour. À l'époque, c'était totalement différent, il n'y avait pas de stock déjà.
Alors, vous avez quelqu'un que j'apprécie énormément et qui, je crois, est un des meilleurs dans l'analyse de cela. C'est notamment Karim Abdelawi, qui est le patron d'APRC et de 6e Sens Unique, qui devait être avec nous ce matin, mais qui est souffrant. Je l'ai eu au téléphone, donc on le salue bien fort. En effet, et je vous rejoins pleinement sur ce qui a été dit, avant la logistique, c'était considéré comme un service apporté aux habitants des villes. Il faut qu'elle soit désormais pensée comme une fonction urbaine au même titre que les transports, le logement et bien d'autres fonctions telles que, par exemple, le verdissement, la renaturation ou les espaces verts. À partir du moment où on pense cela, eh bien, il faut considérer qu'elle est d'ordre d'intérêt commun, puisqu'elle participe de l'intérêt général. Pourquoi ? Aujourd'hui, vous avez 50% des émissions, d'accord ? C'est le transport de marchandises. Une grande partie de ces émissions, c'est la logistique. Directement sur les biens aux particuliers. On estime à 30-40%. Donc, lorsqu'on parle d'émissions et qu'on dit que la priorité, c'est la réduction des gaz à effet de serre, la priorité des priorités doit être, de la même façon que le traitement de la voiture de bébert qui consomme pas bien et qui n'a pas la bonne vignette, l'organisation des flux logistiques. Le problème que l'on a, c'est que, à la fois, comme cela a été dit précédent, on a finalement les trois, ce que j'appelle les trois T, c'est-à-dire la complexité, la cécité et la diversité. Donc la cécité des acteurs face à ce qui a été dit précédemment, l'impensé de la logistique, parce que c'est compliqué, puis vous n'avez pas des citoyennes et des citoyens qui vous arrêtent dans la rue en vous disant hey, « Monsieur l'élu, monsieur le maire, vous faites quoi pour la logistique ?» On va vous dire « Oui, ce qui est embêtant, c'est que voilà, il y a trop de camions, il y a trop de voitures, et puis c'est assez facile de dire « Mais ce n'est pas moi. » La seconde des choses, c'est la complexité, c'est-à-dire que dans les sociétés dans lesquelles on vit, les sujets deviennent beaucoup plus problématiques, et le yaka faucon est un peu plus compliqué, puis la diversité des acteurs. En tout état de cause, peut-être pour traiter deux évolutions rapidement, on est passé déjà de la palette au colis. Tout le monde se souvient, pour ceux qui sont nés avant 1980 comme moi, et qui sont nés en 79 par exemple, donc c'est pas non plus dans les années 60, vous vous rappelez, pour ne citer que, la Redoute livrée quasiment en semi-remorque au bord des immeubles.
Absolument.
C'est aujourd'hui inimaginable. Et vous aviez le salarié traitant qui montait dans le camion et qui allait prendre le colis dans la palette. Donc on est passé de la palette au colis, donc une démultiplication des flux, mais aussi une démultiplication de la nécessité de ressources humaines dans les hangars, contrairement à ce qu'on croit. Parce que la palette, on déplace une palette,
bien sûr.
Il faut déplacer des colis, c'est autre chose.
Oui, bien.
La seconde, qui est aussi, je crois, essentiel, c'est en effet, avant, on stockait et puis on traitait le stock. Et donc, ce qu'on a vu avec le Covid et ce qui se passe en Ukraine, parce que tout le monde dit oui, l'explosion des prix. Enfin, avant la guerre en Ukraine, on avait un conteneur qui était à 15 000 $.
Hein. Oui, ça.
D'accord ? Alors qu'il soit à 20 000 aujourd'hui, On est passé de 1500 2500 euros
à 15 000
dollars.
Était voilà. Pendant le Covid.
Il y a cette gestion en effet de flux. Donc quand vous arrêtez le flux pour le faire repartir, c'est très compliqué. Donc ça pose une question de souveraineté. Et enfin, pour terminer, et je crois que c'est essentiel, bah, l'émergence des ZFE, mais l'émergence aussi de la question énergétique.
Alors ZFE, c'est zone à faible émission.
Voilà. Donc on va dire, bah, à partir les vignettes de critères. Telle zone, vous ne pouvez plus à terme avoir pire que tel niveau
c'est,
d'émission.
C'est le dispositif de vignette critère, voilà. La ZFE.
Donc ça veut dire quelquefois le zéro émission à terme sur certains territoires. Donc ça veut dire que vous allez avoir une logistique qui va se faire sur zéro émission sur 2030, 2034 à certains endroits. Ce qui pose la question énergétique. Parce que je ne vois pas aujourd'hui le livreur livré sans citer de marque avec une Tesla. Donc en plus, il est chargé. En plus, il y a de fréquents arrêts. Donc l'autonomie, elle n'est pas de 600 km dans les 20 ans qui viennent. Donc l'infrastructure logistique, demain, est le support d'une infrastructure énergétique.
Et justement, on parlait d'empreinte carbone, on parlait d'émissions de CO2. J'aimerais qu'on fasse un focus justement sur le transport fluvial en termes d'émissions de CO2. C'est intéressant de savoir...
Si vous permettez, je voulais rebondir sur les propos de monsieur et dire qu'on a sans doute vu en 2020 où on s'est sans doute rappelé l'importance stratégique du rôle de la logistique en fait. Hein. Les chaînes logistiques ne se sont pas rompues. Le transport fluvial a fait preuve d'une grande résistance. Résilience, c'est un terme qui aujourd'hui est galvaudé. Parlons juste de résistance. On a continué à acheminer les populations en divers biens, hein, tout type de biens. On a contribué à la performance économique de certains secteurs d'activité qui restent bénéficiaires pour notre balance commerciale. Et c'est vrai que la fonction logistique, c'est une fonction d'alimentation. Moi, je vois surtout la Seine comme un axe nourricier. Et le fluvial a permis d'alimenter des grands ports maritimes comme le port de Rouen et d'acheminer du blé, des céréales vers les pays du Maghreb, les pays d'Afrique de l'Ouest ou les pays asiatiques qui avaient passé commande de manière antérieure à la crise. Tout ça a pu se faire et tout ça a eu pour conséquence de ne pas rajouter une crise alimentaire mondiale à une crise sanitaire.
Oui, parce que le trafic n'a pas stoppé hein, pendant le confinement. Et, vous avez réduit.
On a adapté notre service. On a différents niveaux de service selon notre réseau. Sur le réseau grand gabarit, où tout peut passer jusqu'à 5000 tonnes, on est au jour d'aujourd'hui dans du H24, 7 jours sur 7. Pendant la crise sanitaire, on a dû... appliquer les directives pour notre personnel notamment et on a fait en sorte de réduire ce service à 10 heures, de permettre que l'activité logistique continue, donc il y avait des éclusiers mais seulement sur 10 heures d'amplitude journalière et les flux ne se sont pas rompus. Pour répondre à votre question, effectivement, alors le fluvial a beaucoup d'atouts et notamment celui de pénétrer le cœur des villes en étant un mode doux et en étant un mode moins émissif de CO2 que le mode routier à la tonne transportée. Donc, en moyenne, on a progressé hein, depuis ces dernières années. C'est une étude ADEME qui l'a démontré en 2019, mais en moyenne, on émet 5 fois moins de CO2 à la tonne transportée que le mode routier.
Et en termes de consommation ?
En termes de consommation, c'est pareil. On est sur un mode qui est assez sobre énergétiquement. Puisqu'on calcule entre 4 et 5 fois moins de carburant utilisé à la tonne transportée pour le mode fluvial. Donc, ce qui est un atout hein, en cette période de renchérissement bien des sûr. Coûts énergétiques. Et le ferroviaire et le fluvial, c'est 1% des émissions de CO2 en Île-de-France. Donc, en fait, ces modes massifiés ne pèsent rien dans les polluants atmosphériques, à motorisation constante hein, pour le fluvial.
Juliette, vous voulez réagir ?
Je voulais réagir, mais Razie, je voulais réagir sur ce que disait Razie. Il me semble que cette question du lien logistique-énergie, elle est essentielle, alors, notamment dans la remise en perspective hein, du sujet des émissions de CO2. Mais c'est un enjeu crucial et aujourd'hui, c'est un vrai point de friction, de contradiction dans les actions qu'on mène. Clairement, l'enjeu dans les politiques de régulation, on va dire, de circulation de certaines typologies de véhicules en ville, elles vont avoir des impacts considérables hein, sur l'organisation des acteurs sur cette question de la mobilité des biens. Moi, je préfère parler de mobilité des biens plutôt que de transport de marchandises. Pour autant, on a un marché, on a une industrie de l'automobile qui n'est pas mature sur cette question des motorisations alternatives. Et on a par ailleurs des vrais enjeux sur l'organisation de la production et de l'approvisionnement énergétique. Pour ces solutions, je pense bien évidemment à la mobilité électrique, mais aussi au gaz naturel propre, à l'hydrogène, hein, technologie moins mature mais émergente et appelée de ses voeux par les acteurs. C'est un enjeu considérable auquel se double la question de l'urbain. On a aujourd'hui, on est face à un enjeu qui est de rapprocher l'entrepôt logistique ou l'immobilier logistique au plus près des urbains, donc dans la ville. Pour autant, quelle est la capacité des réseaux à supporter cette demande et ce besoin de consommation? Quelle est aussi la souplesse et l'agilité que les acteurs peuvent admettre dans le fait de développer massivement des bornes de recharge électriques en sous-sol d'immeubles ou à proximité de quartiers d'habitation? Aujourd'hui, c'est un sujet que le législateur cherche plutôt à contenir et à limiter. Et on comprend, hein, pour des sujets aussi de sécurité incendie, pour pas mal de problématiques. Mais c'est vrai qu'à l'échelle, voilà, si on part de l'expérience d'un acteur comme Sogaris, sur nos sites, hein, qui sont mis en exploitation et loués à différents types d'opérateurs, là où nous, on incite très fortement, voire même de manière très coercitive, hein, à la mobilité électrique, pour autant, on n'a pas une pleine capacité à permettre à nos exploitants de développer des bornes de recharge électrique parce que la loi ne le permet pas aujourd'hui.
Tout est lié, donc c'est compliqué à mettre en place.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une... Finalement, on n'est pas en train de passer complètement à côté d'un enjeu. Je crois que Paris peut tenir 72 heures, me semble-t-il.
Trois jours d'autonomie.
Trois jours d'autonomie, d'autosuffisance, on va dire. Et Paris est en grande difficulté. Bon, ça, c'est important de le rappeler. Là, vous venez de donner quelques éléments aussi importants. C'est vrai qu'on parle de tranquillité publique. Il y a de plus en plus de transports doux dans les grandes villes, de vélos, de trottinettes, etc., qui entrent vraiment en conflit avec des transporteurs qui seraient trop gros. Quand on a trop de transporteurs qui sont trop gros et trop polluants, c'est pas un problème de transport, c'est le problème d'une impensée, vous le disiez tout à l'heure. Mais aujourd'hui, est-ce que, parce que quand on voit les aspects que touche la logistique, la performance du territoire, la qualité de vie, la pollution, évidemment, est-ce qu'aujourd'hui, les élus locaux, les décideurs se tournent vers vous pour vous dire, bah, écoutez, on se rend compte que c'est une solution? Sogaris, vous avez été créé, je crois, en 1967, au moment où les Halles de Paris ont été transportées. Enfin, Rungis a été créé. Il a fallu des solutions d'acheminement à côté. Je crois que ça a été à l'occasion de la création de la Sogaris. Est-ce que, finalement, comme le mot planification revient à la mode en ce moment, sur tous les bancs politiques confondus, est-ce que là, on n'a pas un sujet et un appel à planifier qu'on devrait faire, finalement, aux développeurs locaux?
Alors, l'histoire de Sogaris, elle est à la fois intéressante dans le caractère visionnaire de l'action, donc en l'occurrence du préfet Paul Delouvrier, hein, qui était à l'initiative de cette vaste politique de réorganisation. Et en même temps, elle illustre bien aussi l'enjeu, quand on est visionnaire, de ne pas être trop rigide ou fermé dans ce qu'on projette en termes de stratégie. Je m'explique. Hein, la création, en effet, de la plateforme Sogaris de Rungis, donc qui est le jumeau, on va dire, du marché d'intérêt national, c'était une plateforme qui s'imaginait vraiment, en effet, qu'on venait créer. Et dans l'idéal, hein, du préfet Paul Delouvrier, on créait aux quatre points cardinaux du bassin de la Seine à l'époque.
Les gares au nord.
Voilà, quatre plateformes logistiques qui avaient vocation à créer des portes d'entrée, ce qu'on appelle les portes d'entrée massifiées d'arrivée de marchandises en ville, avec un embranchement ferroviaire. C'était aussi une très forte innovation. C'est une plateforme, hein, il faut le dire, on est sur une trentaine d'hectares, 200 000 m² d'entrepôts. C'est très dense pour l'époque. Elle était déjà très innovante, avec notamment un entrepôt superposé. À fin des années 60, c'est pas rien.
Déjà, oui.
Cet embranchement ferroviaire, disons-le franchement, il n'a jamais été utilisé, il n'a jamais été actif. Donc,
parce qu'on était en plein boom, parce qu'on était en plein boom du routier,
en plein boom
que les coûts de l'essence étaient très très bas,
exactement,
etc. Hein.
Donc cette plateforme qui avait son embranchement, pour autant, c'est une plateforme qui a été 100% routière, qui l'est toujours, hein, aujourd'hui. L'embranchement ferroviaire est inactif. La ville, elle a rattrapé la plateforme. Oui. Là où cette plateforme, elle avait été construite dans les champs. Alors à l'époque, on était visionnaire, mais on n'avait pas encore une vision sur le zéro artificialisation net. La ville a rattrapé la plateforme. Évidemment, cette plateforme, elle doit se recomposer dans un contexte urbain. Elle doit aussi se recomposer dans les fonctions qu'elle accueille. C'était une plateforme qui avait été pensée pour du stockage. Aujourd'hui, c'est une plateforme de flux. Donc pas les mêmes modèles de mobilité, hein, c'est pas les mêmes organisations. Et donc on voit que finalement, heureusement qu'à l'époque, on a constitué ces plateformes que sont celles de Sogaris à Rungis, celles de Gare au Nord, qui sont des outils éminemment stratégiques, hein, pour le territoire, qui ne suffisent pas au territoire, mais qui ont en tout cas un rôle déterminant. Notre rêve, évidemment, ce serait qu'il y en ait d'autres. Pour autant, on voit bien qu'il faut concevoir ces infrastructures et ces gisements non pas sur un usage arrêté, mais justement dans leur capacité et leur agilité à accompagner aussi l'évolution de la ville en continu. Voilà, se dire qu'aujourd'hui, enfin, si aujourd'hui on va vendre un projet en intermodalité fluviale en disant on vous garantit qu'il y aura tant de flux, tant de volumes de marchandises qui passeront par la Seine ou par les canaux, ce qu'évidemment les élus nous demandent, hein, c'est une promesse vaine, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas apporter de réponse fiable. Par contre, s'engager à dire qu'on vient sécuriser des sites, des fonciers et des infrastructures qui rendent possible la gestion de ces flux et qui offrent la plus grande agilité possible aux opérateurs, c'est sécuriser l'avenir, mais dans le long terme.
Mais ça, est-ce que vous en avez encore besoin, par exemple, je sais pas, à VNF ou peut-être à Sogaris ou dans ce que vous étudiez, Razia Madi, à l'Institut? Est-ce qu'aujourd'hui, les communes définissent, est-ce qu'il y en a besoin, des espaces à dédier à la logistique urbaine, en port de ville, en cœur de ville, que sais-je? Est-ce qu'il y a cette conscientisation aujourd'hui? Peut-être Julia Duzinski.
Sur le regain d'intérêt des collectivités pour la voie d'eau, il est très fort, hein. Développer le transport fluvial de marchandises, c'est s'adresser à la fois aux entreprises pour qu'elles intègrent le fluvial dans leur chaîne logistique et qu'elles étudient le fait de l'intégrer. Et souvent, quand elles testent le fluvial, elles se rendent compte que c'est un atout. Et donc, on a un plan d'aide, hein, au report modal dédié aux entreprises pour les aider à franchir le pas. Mais développer le transport fluvial, c'est aussi s'appuyer sur les territoires et donc sur les collectivités qui peuvent faciliter, qui peuvent obliger ou qui peuvent prescrire du fluvial. On a plusieurs outils. On a notamment un guide méthodologique, juridique, pour les collectivités intègrent la voie d'eau dans les appels d'offres de leurs grands chantiers, dans les appels d'offres publics. Les collectivités sont maîtres aussi de certains flux, hein, les flux de déchets, par exemple, hein, qui peuvent vraiment être intéressants pour la voie d'eau. Et on est vraiment là dans une logique gagnant-gagnant pour la collectivité, le territoire, les habitants, le transport fluvial. Ensuite, c'est vrai qu'on s'appuie aussi sur les collectivités pour qu'elles continuent à donner accès à la voie d'eau, donner accès au quai. On a souvent une confrontation en région parisienne entre des activités ludiques, des guinguettes, des commerces, et une activité de logistique qui peut être une logistique légère, mais qui sont vues par la collectivité comme incompatibles. Et nous, le message, c'est de montrer que les deux sont compatibles et qu'on peut avoir un quai ouvert à la logistique légère une partie de la journée, puis après le réouvrir pour de l'agrément, pour les riverains, pour des terrasses de restaurants, etc. Ça, c'est tout à fait faisable avec Haropaport, le gestionnaire d'infrastructures portuaires. Je pense qu'on l'a démontré sur Paris et proche couronne. Et ensuite, sur le regain d'intérêt des collectivités, se manifeste beaucoup par des appels à projets qu'on a vu fleurir sur Lyon, sur Strasbourg, sur Toulouse, sur Lille, souvent agrémentés de plans de circulation en ville plus réduits, souvent agrémentés aussi d'une politique ZFE se fortifiant. Et récemment, sur l'axe Seine, la métropole de Paris, la métropole du Havre, la métropole de Rouen et la ville de Paris ont lancé un appel à manifestation d'intérêt en faveur de la logistique urbaine fluviale. Donc, c'était début avril, en direct de la Semaine internationale du transport et de la logistique, pour donner envie, trouver des nouveaux acteurs, inciter le privé à innover, à proposer des solutions pour la desserte des cœurs urbains. On aura le résultat en septembre, à la rentrée de septembre. Mais ça, c'est des marques d'amour dont le fluvial a besoin.
C'est un, je le disais tout à l'heure, mais c'est un vieux rêve de Victor Hugo, cet axe Le Havre-Paris. Je redécouvrais ça, c'est ébahissant dans Paris.
Napoléon Bonaparte.
Ah ben, lui, il l'a fait, puisque ses héritiers, Freycinet, etc., ont structuré les canaux français. Mais c'est vrai que Victor, déjà, pardon, Jules Verne rêvait de cette, dans Paris au XXe, rêvait de cet axe magique qui pourrait permettre de transporter les richesses, les vivres de Paris au Havre.
C'est une autoroute fluviale. C'est une autoroute fluviale. Et c'est ça, sans doute, le premier des messages qu'on passe aux élus, c'est de ne pas oublier que la voie d'eau est navigable, d'où le N de VNF. Et quelle est une infrastructure de transport ? Souvent, on peut oublier ça, la voir dans le paysage, mais la fonction première est celle-ci.
Et justement, qu'est-ce que vous faites du coup pour promouvoir le fluvial comme moyen de transport ? Quels sont les outils que vous mettez en avant, par exemple ?
On a, comme je disais, des plans d'aide, et notamment un plan d'aide au report modal. On a le guide juridique que je vous citais. On est présent partout, on est présent à des salons. On emmène les élus régulièrement sur la voie d'eau pour la découvrir et pour qu'elle s'inscrive en fait dans les mentalités. On essaye aussi de la promouvoir en direction des élus et des habitants avec des outils simples. On a notamment mis en place sur notre bâtiment quai d'Austerlitz un compteur en fait qui est un panneau informatif qui permet d'afficher en fait le nombre de bateaux qui est passé dans le bief parisien depuis le début d'année en cumulé et de le traduire en nombre d'émissions de CO2 en moins, en nombre d'émissions de NOx en moins, en nombre de poids lourds en moins sur la route. Et on a traduit ça aussi en nombre de tours de périph pour donner un ordre de grandeur.
C'était votre idée, ça.
Et sur l'année 2000, par exemple, on a enlevé de la route 16 000 km de poids lourds mis bout à bout. C'est la distance entre Paris et la Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est des chiffres qui marquent.
Absolument.
Et l'idée, c'est d'aller plus loin et de faire mieux encore. Mais c'est des chiffres qui marquent et qui sont importants pour la vie, en fait, dans la cité. Hein. On a redécouvert les polluants atmosphériques et les effets sur la santé. Et du coup, on redécouvre les valeurs du fluvial, dont celle-ci.
Vas-y, la ville de demain, est-ce qu'elle doit absolument... prendre le transport fluvial comme transport non négligeable. Est-ce que ça doit qu'est-ce que vous pensez du transport fluvial pour les villes qui le peuvent évidemment.
Alors, le transport fluvial, évidemment. C'est-à-dire que je ne crois pas à une logistique
sans transport fluvial.
Sans fluvial, surtout qu'on en a les ressources. Et puis, à terme, ce sera aussi une logique de compétitivité. Hein. Ce n'est pas juste parce que c'est bon pour les oiseaux. C'est que du point de vue des acteurs aujourd'hui privés qui font appel au transport fluvial, c'est parce que dans leur bilan, ça tourne. C'est-à-dire que pour un certain nombre d'opérateurs privés, il n'y a pas de développement durable sans ROI.
C'est pourtant, la performance.
Alors,
performance. Et pourtant, pourtant, ça a diminué depuis 30 ans, justement.
Oui, mais notamment pour les raisons que vous avez évoquées. Et lorsqu'on parle de logistique, on parle de quoi ? On parle de logistique de biens. Et sur le transport de marchandises, une des grandes majorités de ce que transporte VNF, on reste sur du matériau. C'est-à-dire qu'une grande majorité du poids, ça va être le bois, ça va être le ciment. Demain, si on passe à une logique de colis et que dans notre tête, en parlant de logistique urbaine, on imagine des barges qui vont finalement livrer ce que pourraient livrer d'autres grands opérateurs de e-commerce, ça ne va pas être la même affaire. Deuxième chose, même si je crois que c'est possible, mais ça nécessite une massification. De la même façon que vous avez aujourd'hui des opérateurs de grande distribution qui se flattent, et ils ont bien raison de s'enorgueillir, de faire appel au fluvial pour livrer la capitale, sauf que ce sont des opérateurs qui sont ultra présents dans Paris, au point que l'autorité de la concurrence, tous les 2-3 ans, leur dit « Attention, vous êtes peut-être un peu trop présents, donc vous avez racheté 2-3 magasins, ça, là vous atteignez la limite. » Donc ce que je veux dire pour ceux qui nous écoutent, c'est que je souhaiterais, en tant que militant de cette cause, de la prise en compte de la logistique urbaine à un niveau qui est celui des urgences auxquelles nous sommes confrontés, environnementales, en termes de congestion, de rareté, de sobriété foncière, etc., qu'il n'y a pas de solution magique. Parce que souvent, dans les sujets de politique publique en France, lorsque on patauge un peu ou on fait du surplace, on essaie de se raccrocher à toutes les mouches qui volent en les considérant comme des idées, comme disait un ancien président de la République. On a eu, par exemple, pendant des mois, des années, on a eu « oui, on va recycler les parkings ». D'accord. Un parking, il n'est pas pensé pour faire de la logistique ou intégrer des semi-remorques, etc. Et quand on regarde ce qu'il faut investir dans le parking pour qu'il soit aux normes d'utilisation de la logistique, on se rend compte que ça coûte moins cher de reconstruire un parking et même des logements au-dessus. Vous aviez, par exemple, la question de l'énergie. Oui, on va livrer en hydrogène. Ça dépend. Ça dépend de chaque territoire. Et c'est pour ça que ce qui est fort avec la logistique et ce qui est puissant, c'est que c'est un enjeu global, international, mondial, mais dont les déterminants en termes de solutions, de planification et d'organisation et de gouvernance se font à l'échelle du bassin de consommation, du bassin de vie. Ça, c'est formidable pour de l'emploi qui n'est pas délocalisable. L'emploi de la logistique, on le délocalise.
Tout à fait, on ne peut pas délocaliser.
Deuxième chose, en fonction de ce que sont les ressources d'un territoire, ce que sont ses limites. Et enfin, pour finir, ce qu'est aussi la typologie du tissu d'entreprise. Par exemple, on va... Si vous avez telle enseigne de grande distribution qui est très présente dans telle ville et telle autre qui est très présente, ça va avoir des impacts sur la chaîne logistique. Mmh. Ce ne serait-ce que parce qu'ils gèrent eux-mêmes leur centrale d'achat ou ils ne gèrent pas leur centrale d'achat.
J'aimerais revenir sur l'exemple du parking parce que je pense que Juliette Berton ne va pas être d'accord avec vous.
Non, mais ça dépend des lieux.
Non,
mais y a...
non. On va quand même citer l'exemple de l'immeuble inversé que vous allez nous présenter justement. Un parking qui a été réaménagé.
Je vais en parler. Je rebondirai aussi sur ce qu'ont dit mes deux co-intervenants en refaisant le lien avec cette question de la cécité qui était dans l'introduction de Razi, parce que je pense que c'est aussi important et l'immeuble inversé en est un bon exemple. On travaille beaucoup, nous, et de plus en plus sur l'enjeu de reconvertir ce qu'on appelle des friches, des DDC, des espaces vacants.
Il n'y a plus le choix, en fait.
On n'a plus le choix, hein, puisque évidemment, l'enjeu, c'est de bien de recomposer la ville, la ville sur la ville. Et on est évidemment très fortement sollicité sur les opportunités potentielles autour des parkings en sous-sol. Comme ça a été très bien dit, c'est une infrastructure, le parking, qui est conçu pour un usage exclusif, qui est le stationnement de véhicules. Donc, il y a des caractéristiques techniques,
des normes de sécurité
et des normes qui sont vraiment spécifiques. Ouais. Et c'est l'actif le plus difficile à reconvertir pour d'autres usages. Un opérateur comme Indigo a lancé une vaste consultation et se rend très visible sur cette question justement de pouvoir tester des usages alternatifs sur son parc. En métropole aussi, on en parlait tout à l'heure, des acteurs comme Lyon Parc Auto se posent les mêmes questions. Le modèle du parking, il arrive à sa limite de par les perspectives d'évolution de la mobilité individuelle. Et puis, il arrive aussi à sa limite dans le modèle du parking souterrain, tout simplement, qui n'est plus du tout adapté aux usages. Un très bel exemple, c'est l'ancien parking automatisé de la rue du Grenier Saint-Lazare dans le 3e arrondissement de Paris. C'est une infrastructure qui a été construite à la fin des années 90. Je reste assez surprise du fait qu'un tel projet ait pu être fait, on va dire, à une époque moderne.
Ça, c'est
donc 6 niveaux de sous-sol sous une rue vouée à devenir un parking semi-automatisé puis 100% automatisé. Le parking, il accueillait 72 places. Au mieux de son utilisation, il était rempli à 50%. Donc l'opérateur a abandonné. Donc le parking est propriété de la ville de Paris. Il était en concession, en délégation de service public.
Plein cœur de Paris.
A abandonné cette exploitation, notamment parce que cet opérateur gérait d'autres parkings beaucoup plus importants en termes de volume de places à proximité immédiate du site. Et que l'utilisateur de parking parisien est un utilisateur qui aime garer sa voiture. Et puis surtout, c'est un utilisateur qui achète des SUV. Et ce parking, il avait été conçu pour garer des petites citadines. Donc, les véhicules, un bel exemple de modernité obsolète, puisque l'automatisation, c'était en soi un très beau dispositif, très fonctionnel. En revanche, les véhicules ne rentraient plus, puisque le site n'avait pas été conçu pour ça. Et c'est aussi un des facteurs qui explique cette vacance. Donc, la ville de Paris a utilisé, parmi les leviers qu'évoquait Juliette, un appel à projet Réinventer Paris 2, qui était vraiment ciblé sur cette question de la reconversion des sous-sols, a mis ce site en appel à projet, avec une particularité, c'était qu'on est dans un quartier où, dans le cadre du budget participatif, les riverains avaient déjà en fait, pris sur eux d'activer la transformation des espaces publics et de la voirie en surface.
En partie une piétonisation.
Voilà, piétoniser, reconquérir cette voie qui avait une contre-allée et qui était vraiment grevée en fait, par des usages de stationnement, de mobilier urbain pour les déchets. Donc on intervient en fait, dans un enjeu de comment, quel potentiel on peut redonner à ce sous-sol très contraint dans un espace public très apaisé. Et quand on regarde ce site, c'est un site qui n'est absolument pas viable pour faire la logistique urbaine dont on parle depuis le début de cette émission. Puisque ce modèle de la logistique urbaine, le principe, c'est de pouvoir faire entrer des véhicules, organiser des livraisons et faire ressortir des petits véhicules légers, de la cyclo-logistique. On y est allé parce qu'on s'est dit que dans des quartiers très denses, dans l'hypercentre parisien notamment, mais pas que, où il y a à la fois un enjeu de densité de consommateurs, mais aussi de commerce, restaurateurs, artisans, on a considéré, on a fait le pari que la logistique comme un service de proximité pour gérer ce qu'on appelle du stockage tampon, du stockage déporté, pour gérer les derniers mètres de livraison, était une réponse servicielle à ce quartier. On est en phase de travaux, donc on a été lauréat, on est en train là, de finaliser notre chantier. On va mettre en service ce site qui sera exploité par une filiale de Sogaris. Et aujourd'hui, ce projet est très regardé par la ville, mais aussi par beaucoup de collectivités qui viennent nous voir en disant ce modèle-là, il nous intéresse.
Alors, je vous invite juste à retrouver le podcast de Fabienne Lissac qui était en reportage au moment de l'inauguration de ce bel hôtel inversé, puisque je crois que c'était l'immeuble inversé, pardon. Voilà, donc vous pourrez retrouver sur Radio Territoria.
Razi.
Ce sujet m'y fait venir. Quelque chose qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent, qui est la question sociale.
Bien sûr.
Il faut savoir que l'enjeu de la logistique urbaine est un lieu de concentration d'un certain nombre de dérives. Pourquoi ? Lorsqu'aujourd'hui vous avez un logisticien ou un spécialiste de l'immobilier logistique, en général, il regarde les foyers de consommation, il prend un compas et il fait 2h30. 2h30 parce que 2h30, c'est la durée et la réglementation européenne de conduite continue par un chauffeur. Sur le véhicule utilitaire léger, cette réglementation-là n'existe pas. Vous avez aujourd'hui des auto-entrepreneurs qui vont travailler 20 heures sur 24.
Et ça se concentre sur le dernier kilomètre. C'est la précarité du dernier kilomètre.
Le dernier kilomètre.
C'est les livreurs qu'on voit au quotidien dans la rue.
Voilà, qui est quasiment le plus cher et celui qui permet à ce que vous soyez quasiment livré dans la journée.
Mm-hmm. Et qui marche le moins.
Le plus cher et qui marche le moins. C'est-à-dire que je ne veux pas briser les rêves de ceux qui... lorsqu'ils nous entendent parler de logistique urbaine, imaginent demain une logistique urbaine en tricycle électrique, pilotée par une start-up locale, etc. Ça ne marche que parce que c'est financé par l'opérateur qui est en amont.
Ou parce que la ville a mis une réglementation qui impose uniquement cet usage.
Oui, mais c'est un coût.
Voilà.
C'est un coût et du coup, c'est vraiment important. Hein. Aujourd'hui, on est sur un modèle sur la livraison des derniers mètres hein, mm-hmm. où le coût n'est pas assumé par ceux qui le génèrent et par le consommateur en premier lieu.
Et ce qui est dramatique, c'est comme vous le disiez, il y a une question sociale qui va se poser puisque le coût va augmenter et en ville.
Les alertes sont nombreuses dans le secteur. Mm-hmm. Elles sont nombreuses et c'est une bombe sociale qui vient. On ne peut pas vivre sans cette livraison des derniers mètres. Et aujourd'hui, demain, on se retrouvera dans une situation dans laquelle se retrouvent aujourd'hui certains restaurateurs qui disent on n'arrive pas à embaucher, on n'arrivera pas à embaucher les livreurs. Alors aujourd'hui, pourquoi ça se passe ? Ça se passe parce qu'en fait, les opérateurs et les grandes plateformes sont en conquête de parts de marché. Aujourd'hui, vous commandez un briquet, je ne vais pas citer la marque, mais sur une plateforme très connue, vous commandez un briquet et vous commandez ce briquet tous les jours. Vous allez payer le briquet tous les jours. C'est-à-dire que vous, si vous faites un transport, excusez-moi de les citer, mais en Uber, pour aller par exemple à Paris et revenir, vous allez en avoir pour 50 ou 60 euros en partant de la première couronne. Votre briquet, il va faire des centaines de kilomètres tous les jours et vous n'allez pas payer le transport. Parce qu'on est en phase d'acquisition de marché. Mais ça ne va pas durer longtemps.
Ça va pas durer, oui.
Alors pourquoi je parlais de social ? Parce que, y compris sur la question du parking, faire travailler des gens toute la journée dans un parking qui, par définition, n'a pas de fenêtre. Donc, c'est pour ça que des fois, les bonnes idées, dès qu'on les confronte aux pratiques, ça devient très compliqué. Alors, une dernière chose aussi, pour faire le lien avec les élus, vous commenciez à en parler, il y a des gens super à Paris, comme par exemple le maire du 20e, qui a travaillé, je crois, avec la Sogaris. Et puis, on a eu une levée de bouclier, notamment, je crois, c'est sur Porte de Bercy, en conseil municipal, par rapport à un projet qui portait écologiste. C'est-à-dire que quelquefois, le mieux est l'ennemi du bien dans le secteur de la logistique. Paris, en tout cas l'agglomération parisienne, c'est 700 000 mètres carrés de zones d'activité qui sont déclassées. C'est-à-dire qu'on dit qu'on ne va pas faire de la zone d'activité, on ne va pas faire de la logistique, on va faire du résidentiel ou du bureau. Lyon, c'est 400 000 mètres carrés. Or, avant de parler de logistique urbaine, avant de parler de réduction des émissions, avant de parler des bornes de recharge électrique, avant de parler du fameux tricycle et de la start-up qui va livrer le dernier kilomètre, etc.
Ou en drone.
Start-up ou en drone, etc. Il faut du foncier pour faire de la
logistique. Bien sûr.
Ou recycler.
Ouais, on y revient. Donc, il y a
or
cette,
ça,
ce
c'est
besoin.
Comme les élus qui disent qu'il faut plus de prisons. En général, ceux qui disent ça sont ceux qui ne la veulent pas chez eux.
Mais peut-être qu'il faut les accompagner pour expliquer qu'on part de quelque chose de pas forcément sexy, qui est, faut le dire, hein, de dire on va geler cette zone pour y faire de la logistique. C'est vrai que les mots sont pas, ça fait pas rêver. On le disait, ça évoque plus l'entrepôt. Est-ce qu'il faut pas expliquer justement les externalités positives que ça apporte, performance, qualité de vie et réduction des pollutions?
Juliette, brièvement.
Je peux répondre à cette question. Hein, c'est un enjeu. Je pense que par rapport à ce que disait Juliette tout à l'heure sur cette question de l'acceptabilité, notamment sur le fluvial, hein, par exemple, hein, de la coexistence entre des usages de loisirs, de promenade sur les berges de Seine ou des canaux avec de l'activité logistique, c'est un très bon exemple aujourd'hui des limites aussi qu'on a dans l'exercice d'embarquement des élus qui veulent de la logistique fluviale mais veulent libérer absolument leurs berges de cette contrainte d'activité. On le retrouve aussi dans cette question de la livraison à vélo ou de la cyclo-logistique, hein, qui est à la fois très présente dans l'esprit des décideurs parce que considérée comme
romantique.
Une solution de mobilité douce, libérant l'espace public. Pour autant, nous, ce qu'on observe, c'est que ça génère aussi de plus en plus d'interrogations, que ce soit de la part des riverains ou de la part aussi de certains élus qui nous disent « mais moi, je n'ai pas reconquis l'espace public pour que ce soit envahi par des livreurs
porteurs,
à vélo.
Des... »
Les livreurs à vélo sont des sauvages, les livreurs à vélo ne respectent pas les piétons, il y en a partout, ils se garent n'importe comment. Enfin voilà, vraiment des messages assez... On est dans cette phase aussi transitoire, hein, où l'explosion notamment des livraisons de repas à domicile et du quick commerce, elle crée une dérive sur la livraison à vélo qui ne résume pas tout le sujet de la cyclo-logistique, mais qui en tout cas cristallise énormément de sujets. Pour autant, on voit que finalement, cette question de comment on sécurise des gisements fonciers pour organiser la logistique, ça s'accompagne aussi d'une acceptation. C'est vraiment cette question de la cécité, hein, du démarrage de nos discussions, d'une acceptation que la logistique, elle ne va pas disparaître. Même propre, un camion, ça reste un camion. Est-ce qu'on préfère livrer des commerces par quelques camions ou par des milliers de vélos cargo, sachant qu'on n'a même pas les livreurs à vélo disponibles pour le faire? Moi, je cite toujours l'exemple, j'ai beaucoup suivi notamment les réunions de concertation à l'échelle de la ville de Paris sur le devenir des aires de livraison. Une problématique qui, je pense, parle à tous les Français, c'est celle des boulangers en centre-ville qui ont de plus en plus de difficultés, et c'est vrai dans tous les centres-villes, à s'approvisionner en farine. Le transport des farines qui est lié vraiment à la question de l'évolution des aménagements en ville qui vraiment empêche, hein, va de plus en plus contraindre la circulation de ces véhicules. Je pense que pour autant, on souhaite tous continuer à consommer du pain, des viennoiseries, c'est notre modèle de consommation. Et pour le coup, c'est vraiment un exemple d'une typologie de biens qu'on ne pourra jamais livrer à vélo.
Et justement, ça, j'aimerais éclaircir un point aussi. Là, vous prenez l'exemple des boulangers. Le pain risque d'augmenter en termes de prix, ce qui va aussi chasser les classes moyennes des villes, parce qu'on parle d'un coût. Les produits vont augmenter et ça pose un problème de mixité sociale dans les centres-villes, en fait. Qui sont menacés. On fait des choses d'encadrement des loyers, etc., pour que les classes moyennes puissent vivre correctement dans les centres-villes. Mais avec ce coût qui va augmenter, elles sont aussi menacées.
En tout cas, clairement, la question de la logistique, elle renvoie en effet à un vrai enjeu de qualité de vie, pas que sous l'angle des nuisances, hein, générées dans les quartiers, mais aussi sous l'angle de ce à quoi elle nous donne accès en termes de consommation. Il n'y a pas que le quick commerce, il y a aussi un enjeu très fort, hein, dans les préoccupations qui sont le bien manger, les circuits, pour l'alimentation de proximité. Aujourd'hui, ces modèles-là, ils ne sont pas pérennes parce qu'ils n'ont pas de logistique structurée, comme la logistique alimentaire.
Et compétitivité territoriale, on va s'acheminer tout doucement vers la conclusion de cette émission. Razi Hamadi.
Oui, très brièvement, c'est vrai que me vient à l'esprit cette phrase de Hallé, c'est-à-dire qu'il faudrait construire les villes à la campagne, puisque l'air y est plus pur. C'est-à-dire que on veut un certain nombre d'avantages sans en tout cas les compromis pour pouvoir vivre ensemble, et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, pas simplement les uns à côté des autres. Je sais que je vais en mettre en colère quelques-uns, mais c'est comme ceux qui... moi, je pense qu'il faut moins de voitures, qu'il faut interdire même la voiture dans certaines zones, etc., mais qu'on a un problème de gouvernance. Je suis très choqué quand j'entends des élus, pourtant dits progressistes, qui disent « Non, mais c'est super, on va arrêter la voiture à Paris, on va faire des parkings relais à l'entrée de Paris. » Sachant qu'une grande partie des émissions en particules fines se fait au démarrage et à l'arrêt du véhicule, est-ce que ça veut dire que les poumons des petits Montreuilloises et des Montreuillois valent moins que les petits poumons des petits Parisiennes ou Parisiens? Ils sont tous français et ils sont tous attachés, on est tous attachés et mobilisés pour une transition énergétique et environnementale.
C'est déplacer le problème géographiquement, voilà. En fait.
Donc on a un problème de gouvernance. On a eu hors micro tout à l'heure un échange sur les autorités régulatrices, vous savez, comme vous avez les AOM aujourd'hui.
Absolument,
hein. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une AOM, une autorité organisatrice des mobilités, elle a un pouvoir qui lui permet de préempter sous certaines conditions. Donc, moi, je pense qu'il va falloir qu'on arrive peut-être pas à des AOT, mais à quelque chose qui ressemble comme d'autres capitales européennes, avec quand même quelque chose qui est, je crois, essentiel de ce point de vue-là, c'est aussi la capacité à doter de données. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec le PUCA, le plan urbanisme, construction, architecture, et son excellente secrétaire
Hélène
permanente,
Peskin.
Hélène Peskin, sur un séminaire d'un an avec 12 rendez-vous avec chercheurs et praticiens autour de la ville productive. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, en France, il n'y a aucun opérateur public administratif, politique, élu, qui détient à l'échelle d'un territoire ce qu'est la réalité des flux de livraison au niveau d'un point relays.
Oui.
Vous savez ce que c'est un point relais? C'est il y a 4 ans, c'était la petite épicerie, quelquefois qu'on appelle ethnique, hein, entre guillemets. Vous aviez 3-4 cartons et maintenant vous avez une double file devant et la caisse est remplie de colis. Bon, eh bien, ça aujourd'hui, il n'y a aucune collectivité parmi les 36 000 en France qui a des données sérieuses sur le sujet. Il y a le Grand Avignon qui travaille dessus avec l'Université d'Avignon, le PUCA, l'étude va être remise en octobre prochain.
Excellent.
Donc si on n'a pas ça déjà, c'est très compliqué de faire la suite. Et pour finir, ben oui, il faut le grand mastodonte de 120 000, 150 000 mètres carrés avec du moteur thermique à 2 litres ou du fluvial, consommation 2 litres au 100, de l'espace logistique intermédiaire et le tricycle de la start-up sans émission.
Merci. Je suis désolée, on va terminer cette émission. Je voulais juste rappeler, Razie, que vous êtes directeur général de News Tank City, du coup une agence d'information spécialisée dans la ville, et que vous sortez un livre en octobre.
Oui, chez l'Archipel, les 10 défis urbains dans la France de 2030.
Un dernier mot peut-être pour
et
la
après.
Fin,
Juliette.
Avancer à la fois une lecture objectivée et scientifique, et puis outiller les collectivités, la donnée des opérateurs. Hein, c'est aujourd'hui leur bien le plus précieux dans le challenge compétitif de la logistique urbaine. Donc c'est ce qu'il y a de plus dur à récupérer pour vraiment construire une vision ensemble hier.
Merci en tout cas d'être venu sur le plateau.
Je voulais être sûre de ne pas oublier de parler de ce guide qui est paru il y a quelques mois, coécrit par la métropole du Grand Paris sous son égide dans le cadre du pacte pour la logistique métropolitaine pour penser le fluvial au service du transport de la marchandise. C'est la Bible pour les collectivités, pour les aménageurs, mais pas que. C'est téléchargeable sur le site de la métropole du Grand Paris et ça a été coécrit avec Aropaport, avec Voie Navigable de France. Moi, je suis persuadée que la logistique fluviale a de beaux jours devant elle, qu'elle contribue à un développement harmonieux des territoires, qu'on la méconnaît, mais qu'elle innove, que c'est un secteur très innovant. Donc je vous invite à regarder de plus près comment la voie douce se modernise actuellement. C'est sans doute sur ce transport qu'on a le plus d'expérimentation actuellement.
Et bien voilà, c'est dit. Intéressons-nous aux voies d'eau. Merci à tous pour ce numéro de l'Hebdo Territoria. On se retrouve très bientôt pour un prochain Hebdo.
À la semaine prochaine.
Le Grand Hebdo, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.